Bonjour.
Bonjour. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup lu de textes de littérature vampirique ou non. Le mythe du vampire existe en gros depuis les temps immémoriaux, depuis l'Antiquité, pour ainsi dire. Son apparition en littérature date du XVIIIe siècle, mais le mythe moderne, donc tel qu'on le conçoit aujourd'hui dans la littérature, avec la Bible ou avec d'autres œuvres du genre, n'existe que depuis le milieu des années 70. En 1976, le mythe du vampire est encore très manichéen, puisque la créature est un monstre assoiffé de sang, qui se repaît donc du sang de ses victimes, qui ne vit que pour survivre à travers les siècles, sans forcément avoir une conscience propre. Puisque là, le vampire, on le voit comme un... Il n'est pas sujet, enfin, il est sujet de romans, mais le pire, il ne prend jamais la parole. On parle de lui. Les autres protagonistes narrent l'histoire, et lui, en fait, est vu par d'autres. À ce moment-là, la religion est encore aussi fortement impliquée dans la littérature vampirique, tel qu'on le voit, par exemple, dans les ouvrages fondateurs comme Dracula, ou comme dans ceux qui ont suivi. Les meilleures armes pour détruire un vampire sont des armes religieuses. On a bien sûr les crucifix, l'eau bénite. Donc la religion est encore très forte à ce niveau-là. La religion qui s'est d'ailleurs appropriée le mythe à une époque, même si elle voulait s'en détacher. Le XXe siècle a beaucoup changé la donne, dans le sens où de nombreux événements ont modifié cette représentation du vampire. On a eu déjà la révolution industrielle durant laquelle la modernité a égratigné justement l'aspect un peu séculaire du mythe du vampire. On a eu les deux conflits mondiaux et la montée des totalitarismes, en fait, qui ont aussi beaucoup changé quelque chose qui était très fort chez le vampire jusque-là, c'est-à-dire le fait que la créature, le vampire, était vu comme l'autre, donc une personne étrangère qu'on n'arrivait pas à comprendre et qu'on n'arrivait pas à décrypter quelque part, et qu'on n'arrivait pas non plus à accepter. Donc toute cette montée, tous ces changements sociaux, politiques, culturels, ont influencé énormément ce qui s'est passé par la suite, jusqu'à ce qu'on finisse, en fait, avec Anne Rice, par bouleverser, en fait, tous les codes du vampire, et quelque part, par lui donner une psychologie, chose que le vampire n'avait pas jusque-là. Le vampire, jusque-là, c'était vraiment une créature plus morte, quelque part, que morte vivante. Qui est vue, en fait, chez Anne Rice, le vampire, comme qu'on peut concevoir comme une sorte d'alter ego, en fait, du lecteur, dans le sens où il a des pensées, il a une réflexion, il a une psychologie, il est capable de réfléchir sur ce qu'il est et d'éprouver justement une espèce de regret de sa vie humaine et aussi de ce qu'il est obligé de faire pour vivre. À partir de là, donc, Anne Rice arrive en 1976 et sort Entretien avec un vampire. Le livre est assez marquant dans le sens où elle a trouvé l'énergie d'écrire ce livre suite au décès de sa fille qui apparaît d'ailleurs en filigrane dans le roman à travers le personnage de Claudia. Anne Rice va énormément changer de choses, donc dans le sens où, pour la première fois, à part quelques nouvelles éparses au cours du siècle, un vampire va prendre la parole, va expliquer ce qu'il est, va expliquer comment il est né, va expliquer comment il considère le genre humain. Donc on a une notion psychologique qui intervient dans le mythe, qui n'existait pas jusque-là. Et Anne Rice a énormément appuyé à ce niveau-là. Il y a un gros changement aussi, c'est que la manière dont on va pouvoir voir le vampire va changer, dans le sens où ce qui est indispensable pour le vampire jusqu'alors, c'est-à-dire boire du sang humain pour survivre, va pouvoir être mis en trait par certains personnages, comme par exemple Louis de la Pointe du Lac, qui est un des vampires les plus présents dans l'œuvre d'Anne Rice, qui lui va faire le choix de ne pas tuer des êtres humains, et de boire du sang d'animaux. C'est d'ailleurs un truc amusant parce que c'est ce qui va être repris plus tard, une dizaine d'années plus tard, par Stephenie Meyer, avec son idée du vampire végétarien qui, lui, ne boit également que du sang d'animaux. Beaucoup d'auteurs vont s'engouffrer, en fait, dans le sillage laissé par Stephenie Meyer, justement, par Anne Rice, qui, du coup, fait bouger la part d'ombre et la part humaine du vampire. Quelque part, jusque-là, je parlais du vampire mort. Anne Rice est davantage un vampire mort-vivant, qui du coup a cette part de sombre et d'instinct bestiaux qui lui donne envie justement de s'abreuver de sang et qui le force à faire ça. Et aussi une partie psychologique, dans le sens que ce que je disais, c'est que le vampire réfléchit. Le vampire, il a des doutes, il a un semblant de morale, même s'il explose les codes de la morale par le simple fait qu'il soit immortel. il y a quelque chose de vraiment différent qui va arriver. Le vampire, du coup, va devenir sujet et objet en même temps. Il va prendre la parole. Donc, dans cette lignée, on a des auteurs comme Fred Saberhagen, dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Les confessions de Dracula ». Il va reprendre en fait ce qu'avait fait Bram Stoker dans le roman Dracula, et il va faire parler de Dracula. Donc cette fois-ci, c'est Dracula qui va raconter comment s'est vraiment passée l'histoire. Donc là, tout va changer. Van Helsing va devenir un personnage éminemment mauvais, qui fait des mauvais choix, les autres personnages, en fait, ils sont maladroits. Lui, en fait, passe du coup pour une victime, alors que dans le roman original, c'est plutôt quand même les humains qui sont les victimes qui essayent de lutter contre lui. On a d'autres ouvrages aussi qui partent un peu sur cette problématique des vampires qui ont une psychologie, qui ont du regret et qui essayent quand même de rester par un minimum humain. On a notamment des auteurs comme Mickey Stribber, qui est prédateur, où justement l'héroïne est une vampire qui cherche à garder auprès d'elle les gens qu'elle a transformés au fur et à mesure de son existence, histoire de conserver un semblant de cellule familiale. On a aussi une œuvre qui est très intéressante à ce niveau-là, c'est Vampire Junction, de S.P. Zonto, où le héros, c'est un petit garçon qui est une rockstar, donc il a 8 ans, c'est un vampire, et il va faire appel dès le premier tome à une psychanalyste pour justement réfléchir sur sa condition de vampire. Pourquoi je suis un vampire? Pourquoi je fais le mal? Est-ce que c'est mal ce que je fais? Donc là, on a vraiment une dimension psychologique qui était complètement absente jusque-là, qui va commencer à apparaître. Ce côté moral va également servir de point de départ, mais pour aller à l'excès inverse, pour des auteurs comme, par exemple comme Poppy Zebrail, qui avec Âme perdue va pousser à bout toutes les notions de sexualité et de violence qu'on avait dans le mythe du vampire, mais qui étaient jusque-là en filigrane, presque métaphorisées. Dans le Dracula de Bram Stoker, la morsure, c'est presque une symbolique de l'acte sexuel. Dans Âme perdue, l'auteur va vraiment pousser les choses à bloc, et ça va vraiment être une débauche de sexe et de violence sur une forme de road movie où les trois vampires vont écumer les États-Unis en semant les cadavres derrière eux. Excusez-moi. On va avoir aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que jusque-là, le vampire était un personnage noble, donc quelqu'un qui avait une prestance, qui était d'une extraction aristocratique. Les auteurs, à partir de là, vont donner des professions normales, en fait, à leurs vampires. On a normal ou vraiment souterraine à leurs vampires. On a des prostituées vampires, par exemple, chez Ray Garton dans Tapineuse Vampire. On a aussi des professeurs de lettres dans Vampire malgré lui de Suzy McPicharnas. Ou des danseuses de flamenco, si on parle de Rouge Flamenco de Jeanne Fèvre d'Arcier. Donc vraiment, tous les corps de métier vont être représentés. Et quelque part, l'idée du vampire qui s'abreuve du sang des masses populaires qu'on pouvait avoir jusque-là va changer, parce que le vampire, quelque part, il va se mettre à un niveau professionnel avec les gens, les humains qui sont autour de lui. Par la même occasion, il y a un gros changement qui va être mis en place, c'est que jusque-là, le vampire, en plus d'être aristocratique, vit dans un château, dans une vallée déserte, pleine de brouillard, il voit personne, son château est en ruine, il voit pas des gens, ou alors il les voit juste pour se nourrir. À partir de là, le vampire, quelque part, va quitter sa campagne. On pourrait parler du vampire des champs. Il va arriver en ville. Donc on a un peu une fable inversée à ce niveau-là, avec le vampire qui devient un citadin à part entière. Donc c'est un peu visible de Shane Rice, où les vampires vivent dans la ville. Et du coup, le vampire ne vient plus forcément dans les villes uniquement pour se nourrir, comme c'était le cas, par exemple, chez Bram Stoker. Mais il va essayer de coexister avec les humains, ou du moins trouver sa place dans la société. On a de nombreux thèmes qui sont assez amusants à ce niveau-là, qui peuvent d'ailleurs faire penser à l'image du jeu de rôle Vampire et la Mascarade, dans le sens où justement ces vampires citadins vont essayer de faire profit bas, alors que le vampire qu'on avait jusque-là, quand il se faisait découvrir, il ne cherchait pas forcément à s'esquiver ou à se dissimuler, et c'était plutôt la surenchère d'effets spéciaux. Là, on sait que les vampires ont des pouvoirs, mais du coup, ils essaient de camoufler les choses de manière à survivre le plus longtemps possible et de manière à s'abreuver des êtres humains en toute discrétion. À partir de là, on peut dire qu'on arrive dans le début des années 90 et un personnage de la pop culture va faire son apparition, qui n'est pas un personnage de littérature, mais qui va appuyer toutes les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la beat lit, sur lequel je reviendrai plus tard. Ce personnage, en fait, c'est Buffy. Buffy, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû regarder la série dans les années 90, c'est vraiment un personnage emblématique dans le sens où c'est peut-être pas un vampire, mais elle côtoie des vampires toute la journée. Et c'est un des premiers univers qui fait se croiser justement la réalité et la fiction de manière aussi abondante. Les deux univers coexistent en permanence chez Buffy. La série donc, va durer 7 saisons. Il va permettre à Joss Whedon de toucher à énormément de sujets. On a les préférences sexuelles, on a quand même des, c'est une des premières séries où on a des personnages homosexuels alors que jusque-là on ne le voyait pas trop. On a également des épisodes qui traitent de la mort, mais pas sous la forme fantastique, mais sous la forme réaliste. D'ailleurs, c'est parmi les épisodes qu'on pourrait qualifier des plus intéressants de la série. On a le passage de l'enfance à l'âge adulte, et d'ailleurs, c'est une chose qui est très intéressante dans cette série, c'est que justement, les 7 saisons vont nous permettre de suivre les héros depuis le collège et le lycée, finalement, jusqu'à la vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où on pourrait presque dire qu'une partie de Buffy a donné naissance au genre qu'on appelle aujourd'hui la Young Adult. Donc c'est toutes ces littératures de l'imaginaire dont Twilight est issue, donc qui sont plutôt destinées à des collégiens ou à des lycéens. Et toute la partie adulte de Buffy pourrait être reliée au courant Bitlit, dans le sens où à partir du moment où Buffy elle a un travail, hein, elle travaille dans un fast-food en fait, où elle fait des frites, enfin, je vais passer les détails. Et du coup elle a vraiment une vie professionnelle, et c'est la grosse difficulté dans sa carrière, c'est de concilier finalement sa vie personnelle et professionnelle avec justement sa qualité d'élu. C'est d'ailleurs un des thèmes qui est très très fort dans la Bitlit, toute cette notion de conciliation justement d'une vie personnelle, souvent reliée au fantastique, avec justement une vie personnelle qui est la plupart du temps chaotique. Le succès de Buffy va également donner naissance à énormément d'œuvres. On a non seulement la novélisation de la série Buffy et Angel, qui ne sont certes pas de grandes œuvres littéraires. On a également d'autres séries qui sont davantage intéressantes, qui vont en émerger. On a Vicki Nelson, donc Tanya Huff. C'est une détective qui est canadienne, en fait, qui est obligée de quitter son poste de police et donc devenir détective privée, et qui va mener des enquêtes policières. Justement, elle va contrôler les vampires, dans le sens où son bras droit, quelque part, ça va être un vampire issu de l'univers shakespearien. Donc c'est un mélange assez amusant, parce qu'on reprend cette notion de elle vit dans un univers réaliste, c'est le Canada des années 90. D'ailleurs c'est assez amusant de lire la série maintenant parce que les gens n'ont pas de téléphone portable et doivent se précipiter dans une cabine téléphonique dès qu'il y a un problème. Mais en même temps elle vit avec le surnaturel au quotidien, elle découvre très vite que l'univers qu'elle croyait réaliste est complètement standard, tel qu'elle le voyait tous les jours dans sa vie policière. Recèle énormément de mystères, il y a des loups-garous, des momies, des vampires, et ça finit par changer complètement la donne pour elle. Jusqu'à un point, je ne vais pas vous gâcher l'épisode de la série, mais il y a un changement qui est induit dans un des tomes, qui du coup va faire qu'elle va carrément devenir elle-même une créature surnaturelle. On a également une autre série qui est très très forte à ce niveau-là, c'est Anita Blake, donc qui a bénéficié, malgré les aléas, de pas mal de rééditions, qu'on a enfin pu voir dépasser le tome 9 récemment grâce à Milady Bragelonne. Il faut bien leur accorder ça. C'est très intéressant aussi dans le sens où c'est aussi une personne à la base qui a un minimum de pouvoir, et elle qui lutte contre les vampires. Donc on est presque plus proche que Buffy justement, dans le sens où il y a cette lutte d'une personne qui a un minimum de pouvoir, qui cherche, au début du moins, à détruire un minimum les vampires qui ne restent pas dans le rang. Sauf que, à la manière de Buffy, Anita Blake va s'amouracher d'un et plusieurs vampires par la suite, ce qui du coup va vraiment changer sa manière de voir les choses et la manière de voir justement sa position face à cet univers surnaturel où elle-même évolue. Il faudra quand même attendre encore d'autres années et Twilight pour que le succès justement d'une œuvre où le vampire est à nouveau présent, pour que les éditeurs finissent quelque part par structurer leur offre à ce niveau-là et donner naissance à ce qu'on appelle la Bitlit. Donc la Bitlit, quelque part, d'un côté, c'est issu de la romance. Hein. Donc en France, on connaît ça depuis très très longtemps grâce à l'éditeur Harlequin, qui est quand même le plus connu sur le sujet romance, qui proposait à une époque déjà des ouvrages où le fantastique était déjà présent, mais le fantastique c'était vraiment une petite touche par-dessus, il n'y avait pas vraiment d'univers construit derrière. À un moment, dans le XXe XXe siècle, la place de la femme a énormément changé. Il y a eu le droit de vote, il y a le fait que les femmes, au fur et à mesure, ont accédé justement à des positions un petit peu plus, au niveau professionnel, à des positions équivalentes à celles des hommes. Donc quelque part, la romance va suivre cette évolution, et ça va aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui la chick lit, donc la littérature de nana, dont le journal de Bridget Jones, par exemple, où le diable s'habille en Prada, sont des bons exemples. Donc les femmes, à ce niveau-là, ne sont plus des jeunes femmes écervelées qui tombent en pâmoison devant le premier beau gosse venu. Il y a l'aspect romance, mais il y a aussi l'idée qu'elles ont une vie professionnelle, qui n'est pas forcément toujours très simple, elles ont des postes à responsabilité, et elles essayent donc de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Finalement, la bitlit découle de tout ça en rajoutant un cadre fantastique qui n'est pas présent dans la chicklit. En plus d'avoir la vie personnelle et la vie professionnelle, on a donc l'arrivée d'une sphère fantastique à la fois dans la vie personnelle, par exemple chez Buffy, c'est le fait que Buffy est un ouvrage de vampires quand même dans la série, et dans la vie professionnelle, dans le sens où la plupart des héroïnes de bitlit ont un métier en rapport justement avec le fantastique ou le surnaturel. Toilette, quelque part, on va en parler, ne fait pas partie de la bitlit véritablement. La bitlit, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus adulte qu'on peut voir dans les séries comme Twilight, dans le sens où Twilight, ça met énormément de tomes, de 4 en fait, avant qu'on passe vraiment à la relation charnelle. Et dans les 3 premiers tomes, il y a beaucoup de suggestions, donc il y a toute cette notion de dimension de secret, c'est comme la saga du désir interdit. Et la bitlit est quand même beaucoup plus crue, les relations sexuelles et la violence sont quand même dites telles quelles, redondantes. Il y a certains des romans où c'est des parties de jambes en l'air du début à la fin. Donc il faut quand même bien séparer les choses. Twilight, pour moi, c'est vraiment pas de la bitlit, dans le temps que ça s'adresse à un public quand même, à la base, du moins, beaucoup plus jeune. La bitlit, c'est finalement donc ce que je disais, très souvent on met en scène des héroïnes, donc concilier une vie professionnelle en rapport avec le fantastique avec une vie personnelle. Il y a un truc qui est très intéressant avec la bitlit, contrairement à son nom, et contrairement à la chicklit qui elle a été inventée quelque part, du moins le terme, par des critiques anglais, la bitlit vient de France. Le terme bitlit n'a pas été inventé aux États-Unis. Il suffit d'une recherche sur Google pour s'en rendre compte. C'est un éditeur français, si on remonte jusqu'à la source en fait, une première source, qui est à l'origine du terme bitlit. Donc cet éditeur, c'est Milady Bragelonne. Et comme bien entendu, c'est l'éditeur qui produit le plus d'œuvres sur le sujet. Donc c'est assez amusant de voir du coup qu'ils ont, se sont quelque part appropriés un terme, ou du moins inventé une terminologie issue du giron anglo-saxon, et qu'ils ont fait ça de manière assez discrète, de manière à ce que personne quasiment se pose la question, et que d'autres éditeurs qui lancent des séries ou des collections sur le sujet appellent ça ouvertement aussi bitlit. Twilight, donc, pour revenir à ce sujet, il s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Des séries comme le Journal d'un Vampire ne sont pas très éloignées aussi. Ce que je disais, c'est que du coup, les personnages qui sont évolués dans un cadre du lycée ou du collège, on a à l'heure des premiers émois amoureux, même si à la fin des séries, ou à un moment, on peut décoller et avoir quelque chose d'un peu plus direct à ce niveau-là. Le thème du secret, donc le fait de dissimuler les choses, donc un peu toujours dans cette optique de la mascarade, quelque part, est toujours présent. Les vampires n'arrivent pas forcément de se mettre sur le devant de la scène et de montrer à tout le monde qu'ils ont des super pouvoirs. Twilight, il y a un truc qui est intéressant quand même à voir, c'est que finalement, le vampire tel qu'on voyait jusque-là, qui est une créature éminemment sombre, qui avait des pouvoirs et qui avait besoin de boire du sang, c'est nettement plus édulcoré. Dans le sens où les pouvoirs du vampire sont vraiment mis en avant, on a quand même des scènes dans le roman et dans les films où c'est quand même vraiment poussé jusqu'au bout. Quand on voit la partie de baseball, je trouve que c'est un super bon exemple du pouvoir du vampire, voilà ce qu'on peut en faire. Le problème, c'est qu'on gomme toute la dimension tragique et sombre du personnage, dans le sens où certes, les héros sont un petit peu torturés, ils ont du mal avec leur condition de vampire, mais on n'a plus cet aspect vraiment malsain, du moins pour la plupart des vampires de la série en question. Donc ce que je disais, donc, le mythe du vampire en Twilight est différent donc, de ce qui prévaut chez Enrise, dans le sens qu'elle a choisi donc, d'amenuiser cette part de violence qui subsistait quand même chez les personnages comme Louis et les Stacks, qui sont quand même certes plus intéressants au niveau psychologique, du moins moins marqués vers le mal ou vers le bien, mais qui ont encore quand même des instincts qui les poussent à agir de manière forte et violente avec les êtres humains qu'ils côtoient. Je me suis amusé d'ailleurs à faire des comparaisons entre les vampires de Anne Rice et les vampires de Twilight. Quelque part, les vampires de Anne Rice, on est vraiment sur l'image de la rockstar un peu trash, un peu rock'n'roll des années 80, habillé en cuir, qui parle de manière argotique, avec les cheveux longs, donc c'est l'image quelque part du gros hardos. Et si on compare ça quelque part avec Twilight, finalement, le personnage musical le plus proche de Twilight, au moins les groupes les plus proches, pour moi, ça serait plutôt Queen et Muse, dans le sens où on est vraiment dans le clinquant, dans le très, 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 très pailleté, en fait. Et on n'a plus cette dimension un peu trash et rock'n'roll qu'on pouvait avoir jusque-là. Ce que je disais donc, c'est que la Beat Lit jeunesse donc, dans laquelle on branche Twilight et la Beat Lit adulte sont quand même, comme le disait tout à l'heure, les deux gros genres fantastiques où le vampire est surreprésenté actuellement. Mais je pense qu'à court ou moyen terme, ça risque d'être un gros danger, dans le sens où actuellement il y a quand même une grosse surproduction du genre. Migavi a annoncé là, pour le mois de janvier, une dizaine de bouquins de sortie, du moins chez Migavi et chez Brage Jeune, idem pour février. Des gens qui ont commencé les séries, donc continuent déjà les séries qui ont déjà commencé, il y a de nouvelles séries qui vont arriver, donc il y a fort à parier que le client n'arrive pas forcément à suivre. D'autant qu'en plus, ce qu'il y a à noter, c'est qu'autant dans les premiers temps, ces éditeurs ont réédité des séries qui étaient déjà connues, qui avaient déjà eu un peu de succès, pour capitaliser sur le succès du genre. Là, on sort des séries qui sont des séries déjà de seconde zone aux États-Unis, qui sont beaucoup moins intéressantes, et qui du coup commencent à éroder un petit peu le thème et à lasser, je pense, une partie du lectorat. Personnellement, des ouvrages intéressants sur les vampires, il y en a encore qui existent, bien sûr, même chez ces éditeurs-là, mais la plupart des séries qui sortent sont quand même nettement redondantes par rapport à ce qu'on a déjà pu voir jusque-là. Il y a un spécialiste du genre, en fait, un professeur grenoblois qui a énormément travaillé sur le sujet, qui s'appelle Jean Marigny, disait en fait il y a quelque temps que le vampire revient sous forme cyclique, donc à imaginer qu'ils suivent quelque part l'actualité politique et technologique. On avait le vampire des années 30, quelque part, lors de la montée des totalitarismes, on avait un roman comme Chamblot de Moore, qui était assez marqué au niveau de la manière dont le vampire était mis en scène. On a ensuite, dans les années 50, Je suis une légende de Matheson, qui lui montrait clairement les dangers du nucléaire. On a eu ensuite, dans les années 90, avec Anne Rice, toute cette dimension du danger du sida, qui était quand même assez présente, et qui est vraiment liée au sang, qui est quand même un des thèmes forts du vampirisme. Aujourd'hui, on est en période de crise économique, bizarrement le vampire revient, mais il est espéré en fait, que, comme à son habitude, il finisse par rentrer dans sa crypte et dans son cercueil, et qu'on le revoit finalement dans quelques dizaines, vingtaines d'années avec une évolution qui sera peut-être aussi intéressante, voire complètement autre que ce qu'on a jusque-là. Et c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête quand on commence à lire un livre sur le sujet, que ce soit donc Twilight, que ce soit Anita Blake, que ce soit Anne Rice, que ce soit Bram Stoker, c'est que finalement aucun de ces auteurs n'a la véritable image du vampire. Le vampire, en fait, il est toujours en train de se redéfinir. Chaque auteur qui s'approprie le mythe et qui rajoute sa petite touche propose une nouvelle définition du vampire. Il n'y a pas deux vampires identiques à travers l'histoire de la littérature. Le vrai vampire, quelque part, on s'en est énormément éloigné à travers les siècles. Le vrai vampire, c'est celui du folklore roumain. C'est cette créature qui est plus proche d'un zombie, quelque part, qui sort du cercueil après sa mort et qui va ponctionner l'énergie vitale de sa famille. En plus, c'était très, très lié à toute cette thématique de famille. Il n'y avait pas de notion de gros, tout ça c'est le cinéma, il n'y avait pas de notion de cap, de grandes ailes de chauve-souris, tout ça, ça a été rajouté par les auteurs. Et quelque part, le vampire qu'on a aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le vampire des origines. Donc rien nous permet d'affirmer quel sera le visage de ce fameux vampire dans les siècles à venir.